Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canus, 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info de ce lundi 22 décembre 2014, avec Jean-Pierre et Michel dans les studios, et Robert en duplex, si notre duplex veut bien fonctionner normalement, ce qui devrait être le cas, mais je ne suis pas absolument sûr. On va aborder dans tous les sujets d'actualité. Alors, c'est peut-être le dernier, en tous les cas, c'est le dernier Canu Info du lundi de l'année. C'est un des derniers de Canu si toutes les équipes ne se mobilisent pas pendant les fêtes, ce qui semble être le cas. Mais enfin, je pense que, de toute manière, vous saurez déjà beaucoup de choses. Et puis, on vous en racontera d'autres dans 15 jours quand on reviendra. Puisque le lundi en 8, il n'y aura pas de Canu Info le lundi. Tunisie, élection. Alors, bon, résultat pas encore définitif, mais presque. Il semble que c'est Bachbouche, alias Béji, Caïd et Sepsi. 88 ans, ça fait 28 ans que cet homme-là devrait être à la retraite, mais pas du tout, il est toujours là. Et il devrait être président, élu avec 56% des voix, semble-t-il. Marzouki proteste, on dit que lui, il n'a que 69 ans, c'est un jeune, hein, en protestant, en disant que les résultats ne sont pas encore définitifs. Mais alors, Psy, d'où vient-il? Eh bien, il vient de loin, parce qu'évidemment, à son âge, il vient de Bourguiba, il vient de Ben Ali aussi, il vient du RCD. On n'a pas l'impression que c'est vraiment un révolutionnaire qui va bouleverser le paysage politique des 20 dernières années ou 50 dernières années en Tunisie. C'est un peu le problème. Il a gagné les élections législatives, mais pas avec une majorité absolue. Le voilà donc qui va être contraint de gouverner avec son opposition et peut-être avec Ennahda, dont il s'est extrait un peu de temps. Marzouki, bon, il avait déjà fait 6 points de moins aux législatives, donc il semblerait que ça confirme, il y a un ton pas très ancien au mois de mars, que ce résultat-là confirme le précédent et qu'il n'obtiendra pas une majorité. Voilà, on peut peut-être faire quelques commentaires plus géopolitiques aussi, Michel.
Sur l'élection, la présidence d'Esbebzi, comme tu l'as dit, c'est un homme du Serail, donc c'est avant tout la vision conservatrice qu'il a emportée. On est loin, là, effectivement, de la révolution globalement dans le monde arabe. C'est la continuité, finalement, et on va dire qu'il va rassurer les investisseurs, et surtout français, hein, qui avait un peu pris peur avec cette révolution arabe qui voyait le jour en Tunisie. Et on dira que voilà, c'est l'homme du marché, hein, c'est pas l'homme de l'avenir, il a 88 ans. Mais c'est la personne qui va rassurer les investisseurs, et notamment les investisseurs français.
Ça, au moins, c'est une bonne nouvelle. Pour la France. Bon, on peut dire quand même que c'est une progression, enfin une fonctionnement démocratique encore relatif, mais qui par rapport aux autres pays et révolutions arabes est quand même celui dans lequel ça se passe le mieux.
Oui, on va dire pour ce qui est de l'organisation des élections, c'est ce qui se passe le mieux. Mais concernant la réalité du pouvoir, il est clair que le pouvoir appartient toujours à cette minorité de Tunisiens. C'était vrai sous Ben Ali, ça l'est encore aujourd'hui. Et il n'y aura pas de révolution sociale à ce rythme-là, à court terme, en Tunisie.
Oui, les populations sont un peu emballées par les résultats électoraux, évidemment. Autre sujet, autre changement, ça vaut la peine de l'évoquer quand même, c'est Cuba qui est en train, enfin on n'ose pas aller trop vite, mais de mettre en place des relations diplomatiques avec les USA. Alors 50 ans après, un certain Degel, Quelle va être l'ampleur de la collaboration, on ne sait pas, mais en tous les cas, on voit que Obama, sur ce sujet comme sur d'autres, on y reviendra peut-être, en cette fin de mandat, cherche à marquer des points pour rester un peu dans l'histoire, après avoir pas mal piétiné et pas beaucoup avancé précédemment. Et il voudrait donc mettre un terme à cette rupture avec des relations à la fois économiques, diplomatiques, politiques avec ce petit pays qui est à ses portes, 150 km des côtes de Floride. Et puis sur un fond de poussée de la Chine à Cuba, puisque la Chine a un petit peu pris le relais des communistes défaillants pour soutenir l'activité du pays et même lui en procurer.
Oui, tu viens de l'évoquer, donc... se poser la question hein, pour Washington, est-ce qu'on maintient les sanctions ou est-ce qu'il ne serait pas temps effectivement de normaliser nos relations avec Cuba, même si le régime est ouvertement, officiellement communiste, castriste. Et la peur première, c'est ça, c'est-à-dire c'est la montée en puissance aussi dans cet État des Caraïbes de l'investissement chinois. Donc les Américains voyaient bien que autant on peut montrer effectivement quelques mesures de rétorsion vis-à-vis d'un petit pays qui voudrait approfondir ses relations avec Cuba, autant cette tactique ne marche pas avec la Chine. Et donc c'est aussi une manière, je pense, que de donner le pion aux Chinois que de vouloir rétablir ces relations. Et ceci malgré l'opposition des conservateurs cubains exilés en Floride, qui, eux, ne veulent pas entendre parler de normalisation avec un régime castriste au nid. En gros, ce qu'ils voudraient, c'est la chute de ce régime et reprendre leur dû, leur bien hein, qu'ils ont perdu il y a plus de 50 ans. Et toute la question est là, c'est-à-dire la crainte de cette clique américano-cubaine qui vote très majoritairement républicain, hein, qui est très à droite sur l'échiquier politique des Américains aux États-Unis, c'est celle de voir les États-Unis normaliser leurs relations avec Cuba et donc finalement leurs revendications qui sont surtout de celles des terres et des biens spoliés ne jamais donc les voir aboutir. Et d'où effectivement cette opposition très forte à cette initiative de l'administration de Barack Obama.
Arriver à passer outre, parce qu'il y a aussi des Cubains non, aux États-Unis qui ont envie qu'il y ait des relations entre les deux pays.
Surtout ceux qui sont nostalgiques quelque part, ou ceux qui sont nés aux États-Unis qui n'ont jamais connu Cuba et qui voudraient finalement que les choses se normalisent. C'est surtout, voilà, pareil, il faut comprendre que le communautarisme est très très fort aux États-Unis, et c'est aussi le cas dans la communauté américano-cubaine, notamment en Floride, où on est un peu censé de penser comme le dignitaire hein, local, et jusqu'à présent le mot d'ordre c'était pas de relation avec ce régime meurtrier castriste. Donc on soutient le gouvernement des États-Unis dans sa politique de sanctions jusqu'à étranglement et jusqu'à chute du régime. De tout dimanche, ça n'a pas marché pendant 50 ans et je ne pense pas qu'avec la globalisation, et nous on l'a évoqué, donc les relations avec les autres États et Caraïbes, hein, qui eux ont des relations somme toute normales pour la plupart avec Cuba et les Chinois, que cette tactique pouvait marcher bien longtemps. Mais tu l'évoquais, effectivement, il y a toute une génération, notamment de ceux qui n'avaient pas grand-chose à perdre, hein, qui sont nés de familles plutôt modestes aux États-Unis, qui, eux, veulent la normalisation. Et il y a tous ces dignitaires, tous ces héritiers, qui comprennent effectivement que eux et leur ayant droit auraient tout à perdre si les États-Unis avaient donc à normaliser ses relations avec un régime castriste.
Voilà. Robert, tu nous entends ? On a parlé Tunisie, on a parlé Cuba. Tu voulais peut-être aborder un autre sujet ?
Oui, moi, à propos de Cuba, faut signaler que effectivement, Cuba sert un peu de plateforme pour négocier les problèmes en suspens dans ce continent sud-américain, notamment avec les foyers de guérilla, puisqu'actuellement se poursuit la négociation avec les FARC de Colombie, et que ces négociations sont, comme on dit en termes diplomatiques, bien engagées. Et il est certain que Cuba pèse de tout son poids pour amener les FARC à abandonner la lutte armée et puis trouver le moyen politique de s'insérer dans la Colombie la Colombie d'aujourd'hui. Et puis aussi, je peux se dire que Cuba continue à jouir d'un prestige, et Obama se dit finalement ce prestige, il me gêne un petit peu dans tout le continent américain, sud-américain. Si je veux reprendre pied, il faut que effectivement ça passe par une régularisation de la situation avec Cuba, et c'est ce qui est en train de se passer. Ces temps-ci, on a beaucoup mis encore en avant, par exemple, la capacité des Cubains sur le plan médical. Et ils interviennent au Sierra Leone et pour notamment poursuivre la lutte contre Ebola, et avec beaucoup de médecins, d'infirmiers présents sur place. Donc il y a ce prestige de Cuba, et Obama est obligé, mais il pense que pour lui-même, pour son propre son efficacité en Amérique, il lui faut passer par là. Alors les mauvaises langues communistes diront, mais les relations diplomatiques sont rétablies, si demain c'est la fin du blocus, ça veut dire que Cuba n'est plus communiste. Mais bon, on abandonnera ce regret peut-être, qui est en partie vrai et en partie faux.
Et on va parler écologie internationale. Il y a pas mal de sujets aujourd'hui. Alors il y a le Japon déjà, qui avec TEPCO, qui nous annonce que tout va mieux. TEPCO est content. Il a sorti 1500 bars de 18 mètres de haut du réacteur numéro 4. Hein. Les 1500 bars, elles contiennent quand même 1500 fois plus de césium qu'il n'y en a eu de répandu sur Hiroshima, c'est vous dire. Donc le gros danger, dit TEPCO, est écarté. Ceci dit, il reste le combustible au fond des réacteurs 1, 2 et 3. Et pour le moment, il est loin d'être sorti, celui-là. Et en plus, c'est pas parce qu'ils ont sorti le réacteur que tous les problèmes de contamination sont résolus. Donc, optimisme de TEPCO sur fond de nouveau gouvernement japonais qui veut rassurer tout le monde aussi et qui cherche à relancer les centrales qui veulent encore bien fonctionner, celles qui n'ont pas encore divergé, comme ils disent. Et donc, rien de rassurant pour les habitants japonais, mais on va voir comment ils réagissent. Un autre sujet, c'est le Nicaragua qui entreprend de construire un canal parallèle à celui de Panama. 40 milliards de dollars, coût de l'opération, avec les Chinois qui financent l'opération, avec des problèmes écologistes qui entraînent des affrontements entre la population et les forces de l'ordre, puisqu'il s'agit de terres qu'on prend aux paysans en leur donnant pas du tout la valeur qui pourrait être celle auxquelles ils auraient droit. On traverse un lac Nicaragua sur 100 km, là où se prend une grande partie de l'eau potable de Nicaragua. Bref, ce grand canal destiné à relier le Pacifique aux Caraïbes et à faire de l'ombre aux intérêts de Panama ne fait pas que des heureux, à la fois chez certains financiers et puis aussi chez les écologistes, les gens qui habitent au Nicaragua. Un autre endroit, un autre problème, c'est le Bangladesh, où là, il y a une marée noire dans une mangrove qui de 10 000 km², qui est la plus grande du monde, avec 350 km² qui sont déjà pollués par du pétrole. Et une mangrove qui est classée UNESCO, au patrimoine mondial, donc, avec forcément des dégâts écologiques considérables. Donc, tous ces lieux ne vont pas passer des Noëls paisibles et sympas. Quoi. Peut-être des réactions sur ces sujets, Michel
Non, tu évoquais effectivement ce projet donc, du canal sur Nicaragua. Dans le cadre du développement des échanges, hein, de la croissance infinie dans un monde fini, on est justement à la démultiplication de ce type de projet. Donc on nous parle de ces nouvelles voies maritimes par le nord avec le dégel, donc par le nord de la Russie, détroit de Bering, ou par le territoire de Baffin, le territoire du nord canadien. On nous parle du doublement du canal de Suez. Là aussi, le maréchal, maintenant président Al-Sisi, était venu à Paris notamment chercher des financements donc, en vue d'installer ce projet. On voit bien que la question donc, environnementale, écologique, passe au second plan hein, pour nos décideurs avant tout. On en est donc là, une fois de plus, hein, à se partager le marché, ou conquérir le marché, et surtout dans ce qui apparaît aujourd'hui, donc la grande nouveauté, c'est l'émergence de la Chine et de ses intérêts qui se bornent plus donc à l'espace asiatique, et on le voit bien, l'investissement se fait aux quatre coins du monde, et là aussi les occidentaux, hein, avec leur leadership états-unien, essayent de contester donc cette montée en puissance des Chinois.
Un mot de la Roumanie. Il y a 25 ans, Ceausescu était renversé. C'est pratiquement cet anniversaire que le nouveau président choisit pour son intronisation. Est-ce qu'on peut dire qu'en 25 ans, tout a changé en Roumanie?
Oui, Ceausescu n'est plus. Ioannis a beaucoup de pain sur la planche, hein, donc changé, oui. En un quart de siècle, la Roumanie a évolué, mais le problème social reste d'importance pour ce pays-là. Donc, le problème de sa minorité rome, plus de 2 millions de personnes aussi. Il compte s'attaquer à ce problème endémique qui est la corruption. Donc, il aura vraiment du pain sur la planche, et il a été quelque part élu aussi pour ça. Lui, qui appartient à la minorité saxonne, donc allemande de Roumanie, et ce qui est une première. Donc les Roumains, donc si j'ose dire de souche, ont voté massivement pour un Allemand de souche pour donc administrer ce pays, donc comptant beaucoup sur la réputation de cette minorité protestante des Carpates, hein, où effectivement on fait les choses de manière carrée. Donc oui, il y a du travail, hein, pour Ioannis, et dans le même temps, il reste totalement assujetti donc à Bruxelles et aux directives européennes. Donc est-ce que c'est compatible avec le développement et les intérêts de la Roumanie en propre, ou ça, je ne le pense pas. Hein. On voit bien que les intérêts des uns ne sont pas ceux de la population. Hein.
Ouais, pour ce sujet, Robert, avais-tu un autre sujet? On vient de parler donc de la Roumanie et des 25 ans de la disparition.
On va faire un petit tour jusqu'à Kiev. Où on reçoit beaucoup à Kiev. Kiev, où le président a reçu ses homologues de Bélarus et de Kazakhstan. Alors du coup, les commentaires vont bon train pour dire, mais voilà, ce sont des gens qui sont en train de retourner leur veste parce que La Russie étant affaiblie, ne pourra plus être le support essentiel sur le plan économique. Donc il faut réajuster leur politique. Bon, c'est pas le cas, mais effectivement, ça fait plaisir aux Occidentaux, notamment aux gens de l'OTAN et de l'Union européenne, qui espèrent bien que Poutine sera lâché par les pays voisins. Mais en fait, la réalité est tout autre. Ça, c'est plutôt que ces deux pays-là veulent, à juste titre d'ailleurs, et d'ailleurs c'est aussi la volonté de Poutine, semble-t-il, de faire qu'on sorte de l'impasse dans laquelle se trouve cette situation de l'Est de l'Ukraine, et que, c'est pas mal que Bélarus, Kazakh et Ukrainiens de Kiev en parlent ensemble. Voilà, enfin, bon, les spéculations vont bon train, mais je crois pas qu'il faut s'attendre à un lâchage de Poutine.
Tant que le jeu restera trouble, hein, d'un côté comme de l'autre, on aura effectivement cet affrontement dans l'Est ukrainien, donc dans la région de Lugansk et Donetsk. Juste à rappeler une chose, la Russie ne cherche pas à annexer ces territoires-là, comme elle vient de le faire il y a quelques mois avec la Crimée. Ce qu'elle veut, c'est que pour sa minorité russophone, mais qui se sent aussi russe et qui habite l'Ukraine, c'est que ses droits lui soient garantis. Et la position de l'administration russe n'est plus ni moins que donc une Ukraine indépendante, mais qui serait décentralisée et qui laisserait donc à tous les oblasts donc la possibilité de voter les textes fondateurs, et à commencer par l'adhésion à l'OTAN. Le problème premier, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que les États-Unis sont à la manœuvre et ils comptent bien donc intégrer le plus rapidement possible cette Ukraine, l'Ukraine de Porochenko, à l'OTAN. Un casus belli pour les Russes qui ont déjà avalé plus d'une couleuvre. Et à ce sujet, il y a quelques semaines, un responsable des États-Unis ne s'est pas caché que les nouvelles rampes antimissiles qui vont être installées en Roumanie le seront effectivement contre un feu de raquettes potentielles russes. Alors jusqu'à présent, on nous a toujours expliqué que cette volonté de mettre en place ce bouclier antimissile en Pologne, en Slovaquie, hein, et maintenant en Roumanie, et il était contre les moyens balistiques de l'Iran. On voit bien que au gré effectivement des conflits, les intérêts changent, et très très rapidement. Donc personne n'est dupe, hein. Les Russes savaient effectivement que c'était dirigé contre leur intérêt géopolitique, et tant que cette question donc du statut même de l'Ukraine, hein, je le rappelle, hein, la position de la Russie, c'est une Ukraine indépendante qui veut signer donc des accords d'association avec l'Union européenne, il ne voit pas d'intérêt, mais d'aucune manière elle ne pourrait donc rentrer dans l'OTAN, donc une forme de finlandisation, hein. La Finlande a su prospérer sans pour autant être membre de l'OTAN, donc on ne demande pas autre chose du côté de Moscou. Mais étonnamment, donc, les chancelleries occidentales ne sont pas très réceptives, et pour cause, puisque c'est Washington qui mène la danse, et c'est lui finalement qui influe très fortement sur les États européens à ce titre, hein, de politique étrangère. La France n'en a plus depuis pas mal de temps, et avec ce dossier ukrainien, on le voit très clairement, hein, on renonce à nos intérêts premiers, hein, en parlant de la livraison de la frégate et sur d'autres pans aussi, au détriment d'intérêts qui sont uniquement ceux des États-Unis.
États-Unis, Irak, oui, parlons quand même un peu de l'Irak. Bon, la guerre continue, bien sûr. On nous annonce que le siège de la montagne Sinjar, où s'étaient réfugiés les Azidis, aurait bénéficié à l'aviation américaine et aux Kurdes sur le terrain contre l'État islamique, qui a dû reculer, cette montagne ayant été reprise. Donc tout ça dans un contexte où les populations sont prisonnières des deux côtés, puisque que ce soit les uns ou les autres qui arrivent, les obus tombent, les rafales aussi, et les gens ben, survivent au milieu comme ils peuvent, quoi. Mossoul est toujours tenu par l'État islamique depuis 6 mois. Et si, même s'il y a des attaques, pour le moment, il résiste. Au niveau de la population, ça reste une ville un peu paralysée, c'est-à-dire que l'État islamique, qui s'occupe surtout de militaires, est incapable de faire fonctionner, vivre, gérer cette ville, avec tous les problèmes qu'on peut imaginer, d'électricité qui manque, d'imposition de normes sociales islamistes, et ainsi de suite. Voilà, dans une guerre qui continue, donc. Oui, aussi au nord, Irak, les Américains annoncent qu'ils auraient tué un certain nombre de responsables islamiques par leur bombardement.
C'est bien.
Et
c'est une boutade, mais voilà, on est dans cette fameuse guerre contre la terreur généralisée, la terreur islamiste. Et on voit bien que c'est une guerre sans fin, hein, donc les buts politiques, on n'en connaît toujours pas aujourd'hui la teneur, l'élimination de l'État islamique, la mise à mal de quel leader, on ne sait pas exactement, avec quels moyens, on ne sait pas exactement. Voilà, donc si c'est pour continuer à déverser leur trop-plein de bombes qui arrivent en bout de vie, hein, parce que si ces réalités-là, hein, qui sont, vous savez que dans l'arsenal américain, cet État qui chaque année engloutit plus de 650 milliards de dollars, hein, dans son armée et dans son infrastructure militaro-industrielle, eh bien, chaque bombe n'est pas garantie à vie. Donc, il y a une durée de péremption, donc il faut les utiliser. Donc, je pense que les États-Unis, avec ce conflit comme ça larvé, c'est une manière de pouvoir se débarrasser de ce qui leur coûterait beaucoup plus cher s'il fallait démanteler les armements. Enfin, j'ai peut-être l'impression de plaisanter là, mais j'en suis pas très très loin. C'est-à-dire que d'un point de vue géostratégique, cette guerre qui est livrée à l'État islamique, sachant pertinemment que cet État islamique, on veut nous faire croire qu'il est arrivé de nulle part, alors qu'il a été formé donc de près ou de loin, hein, par les services secrets occidentaux, qu'il a eu l'approbation de la Turquie, membre de l'OTAN, allié des États-Unis, pour passer la frontière et faire la guerre en Syrie contre le régime de Bachar al-Assad, qu'il a été copieusement financé par l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis, alliés aussi des Occidentaux et des États-Unis. Je ne comprends pas trop donc à quoi rime tout ça. C'est-à-dire, si on veut s'attaquer réellement à l'État islamique, on s'attaque aux sources de financement. Hein. Or, aujourd'hui, vouloir nous faire croire que l'État islamique s'autofinance exclusivement par la vente de son pétrole qu'il refourguerait sur le marché noir, c'est nous prendre pour des imbéciles.
Robert ?
Mais sur un autre sujet, parlons un peu d'Europe et notamment de la situation en Grèce. On sait que le Parlement grec se cherche un président et que il a jusqu'à présent fait plusieurs tours et pas réussi à en désigner un. Ce qui veut dire que si la Grèce n'a pas de président désigné par le Parlement, eh bien ce sera la dissolution et des élections en janvier. Et c'est la panique à Bruxelles, et les représentants de la commission de Bruxelles se succèdent, notamment ceux qui s'occupent d'économie. Et on a vu Pierre Moscovici à Athènes venir expliquer que le plus grand danger, ce serait effectivement des élections, parce qu'elles vont amener au pouvoir Syriza, le parti actuellement majoritaire dans les sondages, et qui effectivement prône non pas une sortie de l'Europe et de l'euro, mais simplement une politique anti-austéritaire qui n'a rien à voir avec celle qui est imposée par Bruxelles. Voilà, c'est une situation effectivement européenne d'un grand danger pour les tenants de la politique globale d'austérité. Et c'est un espoir si effectivement les pressions des chefs d'État européens n'arrivent pas à décider la coalition d'Athènes à se donner un nouveau président.
Le deuxième tour, c'est demain, non ? C'est ça ? De ces élections présidentielles.
Comment ?
Le deuxième tour de ces élections présidentielles, c'est demain, hein, c'est ça ?
Oui, demain, et puis je crois qu'effectivement, si ça ne fonctionne pas, eh bien, on ira à la dissolution.
Donc, à suivre. Alors, pendant qu'on est dans l'Europe, on peut parler du plan Juncker. On est assez... Il laisse dubitatif ce plan qui doit être un peu bidon. Juncker annonce 315 milliards d'investissements, de fonds pour investissement. Et en même temps, il nous révèle que finalement, Bruxelles, enfin l'Union européenne elle-même, ne mettra que 21 milliards et qui compte surtout sur les appels de fonds du privé pour venir multiplier par 15. Ah, c'est 21 milliards, quoi. Alors, Hollande embraye là-dessus en parlant d'un effet de levier raisonnable qu'on peut espérer de la petite goutte d'eau qu'on va mettre qui va faire une grande flaque sur toute l'Europe. Tout ça hors du pacte de stabilité, les sommes qui vont être investies. Et on parle déjà de 20 000 projets qui sont présentés à l'Union européenne pour... rentrer dans ce processus. Alors, effet d'annonce, véritable levier économique pour relancer l'Europe, ben, je vous avoue franchement que je ne sais pas quoi vous en dire. Je ne sais pas si mes collègues ont une idée là-dessus. C'est pas sûr. Hein. C'est du jus de bouillon pas de l'air, tout ça. Voilà, d'autres infos avant de faire une pause musicale ou non, pas spécialement. On a un petit peu fait le tour. Enfin, on aurait encore d'autres choses à dire, mais il est déjà le temps avance. Allez, Radio Canu, ben le Père Noël est passé et le Père Noël, il a déposé une horloge au pied du micro. Une splendide nouvelle horloge qui ne fait pas de bruit. Vous ne l'entendrez plus à l'antenne, celle-là. Et puis, elle est beaucoup plus lisible que l'autre. Elle donne les heures, les minutes, les secondes, enfin bref, tout ce que fait une horloge. Alors, pour commémorer tout ça, et on va vous offrir une chanson, on va offrir ça pour l'horloge et pour les auditeurs. Qui parle d'horloge ? Elle s'appelle La pendule de mon voisin. Patrice Gaston Albert, Yvette Terolas pour l'interprétation.
J'ai comme voisin de ma petite chambrette un jeune homme très bien qui me fait la cour. Aussi de temps en temps, d'une façon discrète, il me fait parvenir des petits mots d'amour. L'autre jour, ma montre s'étant arrêtée, je ne savais plus l'heure qu'il était. Comme il prenait le frais, seul à sa croisée, je lui dis « Quelle heure est-ce, s'il vous plaît ?» Dès qu'il m'aperçoit, son œil s'illumine, et d'un air affable et tout dégourdi, il répond doucement, ma belle voisine, il est midi, il est midi.
Comment c'est midi ?
Mais vous voulez rire, c'est au moins 5 heures du soir à présent, pour sur votre pendule doit être en délire, il faudrait changer un peu son mouvement. Ma pendule, dit-il, n'est nullement folâtre, venez voir ses mouvements sont très réguliers, elle a pour soutien 2 colonnes d'albâtre, et le plus encore de beaux balanciers. Elle est pudiquement sous une draperie, cachée nuit et jour à tout regarder. Mais elle se montre à femme ravie quand c'est midi, quand c'est midi. Alors sapristi, je sentais que cette pendule devait être un peu du goût féminin. Comme je suis curieuse et très incrédule, j'allais pour la voir chez mon petit voisin. Sur un grand fauteuil, voilà qu'il me place, poli prévenant et doux à souhait. Puis il me met là, sans voile, bien en face, la fameuse pendule qui tant m'intriguait. Oh, mes chers amis, mon Dieu, quelle surprise! Mon gentil voisin n'avait pas menti, car là, sous ma main, la preuve était mise. Et c'était midi. Oui, c'était midi. De plus joli, je le certifie, que ce qu'il montra, je riais en dessous. Sa pendule avait une sonnerie qui m'électrisait à chacun de ses coups. De son carillon, je goûtais les charmes, dirigeant l'aiguille partout à mon gré. Et toute ravie, je rendais les armes, regrettant d'avoir un instant douté. Quand ça s'arrêtait, alors vite, vite, je le remontais, et ce fut ainsi que nous fîmes 6 fois, oui, 6 fois de suite. Sonnez midi, sonnez midi. Mon sonneur mettait une ardeur extrême à faire durer ces jeux amusants, répétant tout bas, voisine, je t'aime, et me dévorant de baisers brûlants. Pendant plus d'une heure, avec fanatisme, nous carillonnâmes ainsi tous les deux. Mais hélas, soudain, le beau mécanisme ne fonctionna plus que molle et paresseux. La belle pendule semblait endormie, à la fin des fins demandant merci, marqua tout à coup 6h30. Adieu midi, adieu midi.
Yvette Thérolaz, Gaston Albert, la pendule de mon voisin. J'espère que vos chastes oreilles ne sont pas choquées. Vous écoutez bien Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios, comme vous venez de le voir, avec ce Canu Info du 22 décembre 2014, dernier de l'année pour notre équipe. Et nous abordons la rubrique nationale. J'espère que tout le monde est en bonne santé, parce qu'il ne va pas falloir être malade entre les urgentistes qui se déclarent en grève, mais qui font le boulot quand même, et les médecins qui se déclarent en grève, les médecins libéraux, et qui partent au sport d'hiver comme tous les ans à l'occasion de la grève, on va avoir du mal à se faire soigner. Pour ce qui est des urgentistes, il semblerait que ça s'arrange. Pelloux déclare qu'on a quand même cette fois des gens avec qui on peut discuter au gouvernement. Ce qui n'est pas le cas du précédent gouvernement qui leur disait « Déclarez-vous en grève tant que vous voulez, je vous réquisitionne et je m'en fous ». Donc là, un accord serait en passe d'être signé. Il est en retour vers la base pour voir si donc cette grève-là ne va peut-être pas durer. L'autre, par contre, elle est bien installée. Ils en veulent toujours plus, c'est normal. Ils veulent passer de 23 à 25 euros. Les retraités aimeraient bien aussi être augmentés de 8%, ce serait sympathique, mais non, ce serait juste pour eux. Ils ne réclament pas la même chose pour tous les retraités, ni tous les salariés d'ailleurs. La loi de santé 2015 leur plaît beaucoup, sauf que ce qu'il y a dedans, il n'y a rien qui leur convient. La généralisation du tiers payant, ça risque de leur faire perdre une semaine sur leurs revenus, le temps que la sécu les paye, et ils préfèrent sonner la monnaie sonnante et trébuchante, à moins que ce soit pour d'autres raisons moins avouables, que quand on touche du liquide et qu'on a affaire à des clients pas remboursés, c'est plus facile à dissimuler au fisc qu'avec un tiers payant. Enfin, on peut se poser des questions comme ça. Puis ils craignent une étatisation, l'ARS qui leur imposerait, quand ils entrent dans la carrière, d'aller travailler là où il y a besoin d'eux et pas là où il y a beaucoup de pognon à se faire. Ça, c'est des mesures évidemment inacceptables pour la médecine libérale. Enfin, personnellement, je suis à l'aise. Ça fait 60 ans que je pense que la médecine devrait être nationalisée avant n'importe quoi d'autre. Mais je pense qu'on peut aussi attendre encore longtemps. Voilà, Robert, tu avais peut-être quelque chose à dire sur le sujet.
On souhaite que la loi de Marisol Touraine arrive à son terme, surtout que tout le monde puisse bénéficier du tiers payant, parce que actuellement, c'est vrai qu'il y a, chez les médecins généralistes, généralement, mais aussi chez les spécialistes, c'est plus grave encore, le tiers payant n'est pas facultatif, ce qui fait que beaucoup de gens pour des raisons aussi autres, ne peuvent pas avancer l'argent pour se soigner.
Voilà, c'est là-dessus tout ce qu'on peut dire. Allez, on va parler du musée des Confluences. Oh, c'est un sujet important, ça, à Lyon, le musée des Confluences. Raconter la mauvaise gestion de Mercier. Non, ce n'est pas le thème du musée, c'est raconter l'homme, j'ai pas compris. Notre Mercier qui a signé un contrat à 60 millions d'euros, et finalement, un département, mais ça ne vient pas de sa poche, hein, va devoir lui payer 300 millions d'euros, ou emprunter, hein, pour payer ce tas de tôles et de béton qui est censé amener du touriste. Alors, on nous vante le contenu du musée, absolument fabuleux, des squelettes, des mammouths, des tas de choses comme ça. Je pense surtout qu'on veut faire venir le chaland avec une architecture qui est assez impressionnante, il faut le reconnaître, mais qui est une architecture va-tu-vue, qui a, comme d'autres, Bilbao, cet objectif que les gens viennent visiter l'architecture, parce que dans le musée, ils ont envie de faire le tour.
Alors, outre le scandale financier, le problème de ce musée, de ce projet architectural, de ce cabinet autrichien, c'est qu'il est daté. Entre le moment où le projet donc a été accepté, ou le moment où le chantier a commencé, c'est écoulé quand même 10 ans, même plus. Et au rythme où vont les nouveautés dites architecturales, est sorti de terre donc un musée qui peut apparaître effectivement impressionnant comme ça, mais qui d'un point de vue architectonique est déjà dépassé. Chose assez aussi étonnante, c'est que Lyon fait de la publicité pour son musée à travers toutes les gares de France. Hein. Vous avez en gare de Montpellier, de Marseille, de Grenoble, des affiches.
On attend 500 000 visiteurs en 2015.
Oui, bien sûr, pour voir quoi ? Rien. Voilà, donc le but c'était d'avoir un musée, un monument emblématique, un peu sous en parallèle avec le Guggenheim de Bilbao, donc à l'entrée sud de Lyon. On le voulait coûte que coûte, mais on ne s'est jamais posé la question de la pertinence du propos même du musée, à savoir qu'est-ce qu'on conserve à l'intérieur. Et donc, aujourd'hui, on ne sait pas trop, effectivement, comme tu dis, des squelettes, peut-être un peu d'art contemporain, parce que c'est plus tendance hein, que nous montrer effectivement des vieux squelettes. Donc ça va être une sorte de fourre-tout. Il vient juste d'être inauguré, mais bon, déjà, c'est un fiasco, non seulement en termes financiers, mais aussi en termes muséal, quoi. C'est assez déroutant.
Autre sujet, Alstom vend les bijoux de famille, General Electric, les turbines à gaz, qui étaient déjà avec des participations américaines, mais sont vendus pour 12,5 milliards d'euros. Qu'est-ce qui reste à Alstom, qui a été un fleuron de l'industrie française ? Pas grand-chose. Des transports, qui paraît-il, les transports, c'est-à-dire les trains, les métros, les tramways, qui paraît-il sont une activité peu rentable. Mais par contre, 12 milliards d'euros de vente de l'usine General Electric, ça veut dire 4 milliards versés aux actionnaires pour leurs dividendes. Et comme il ne faut pas oublier le petit personnel, 4 millions d'euros pour le PDG sous forme d'actions. Alors on comprend que ce PDG soit très enclin à liquider une boîte comme ça, dans la mesure où, alors que ce n'est pas lui qui l'a constitué, il est arrivé là il y a peu de temps, et il a une magnifique prime de Noël pour liquider l'entreprise, quoi. Les salariés, eux, évidemment, sont très inquiets parce qu'il est question déjà d'annoncer de 300 salariés en moins en 2015. C'est la moitié de l'effectif. Bref, Alstom, on a envie de dire, c'est fini, c'est quasiment liquidé.
Juste à préciser que sur Alstom Ferroviaire, hein, qui était le partenaire historique hein, de la SNCF, de plus en plus, concurrence dite oblige, la SNCF se tourne vers le Canadien Bombardier, qui fabrique son matériel dans le nord de la France, mais aussi vers Siemens, hein, les dernières rames qui ont été commandées par Eurostar, le consortium franco-britannique belge, sont des rames Siemens. Donc Alstom a pris malheureusement un certain retard dans ce domaine-là. Donc, comme tu dis, si le secteur énergétique a été bradé à l'American General Electric, c'est aussi peut-être qu'il faut chercher la réponse autrement que sur des enjeux purement financiers et économiques. Derrière, il y aurait aussi les soucis de Alstom aux États-Unis, de sa branche aux États-Unis, des soucis d'ordre juridique. Et donc, qu'il apparaîtrait que ce soit une forme de deal que la braderie de la branche énergie à l'American General Electric.
Voilà, Robert, tu as quelques sujets sociaux.
Oui, à propos de la loi Macron qui a été présentée au Conseil des ministres et qui, devant le tollé général qu'elle provoque, ne sera seulement présentée au Parlement que dans la deuxième quinzaine du mois de janvier, en espérant que d'ici là, cette loi disparaisse de l'ordre du jour, ce qui n'est pas forcément acquis d'avance. Aux critiques très très virulentes de Martine Aubry s'est joint hier les déclarations faites par Pierre Joxe. Pierre Joxe, eh bien, c'est un peu une espèce de grande figure de la période mitterrandienne et qui dans un entretien à Mediapart tire à boulet rouge sur la loi Macron. Il se dit éberlué, je le cite, hein, et stupéfait par un texte ahurissant. Et il accuse Macron de déconstruire le droit social, le droit du travail, et est en miettes avec cette loi. Il rappelle que effectivement les fondements même de la gauche et des socialistes. Il précise la gauche dans son programme n'a jamais envisagé des réformes du droit du travail du genre de celles qui sont aujourd'hui à l'ordre du jour. On est à contre-emploi de notre histoire, du sens de l'histoire de la gauche. Et puis, il prend par exemple le travail du dimanche en disant que, en fait, le travail du dimanche, c'est simplement pour les grandes surfaces. Ça n'arrange en rien la situation du petit commerce et de l'artisanat d'être présent sur le travail le dimanche. Et il conclut, enfin il conclut pas, mais notamment il enfonce le clou en rappelant une histoire tragique et malheureuse, 1956. Alors, mais 1956, il y a un vote des Français, et puis le vote, c'était un vote qui était très clairement, majoritairement anticolonial. Et donc l'homme qui, en 56, aurait dû être appelé au gouvernement pour régler dès cette époque-là, c'est-à-dire notamment l'Algérie, René Coty, président de la République, dans la formule parlementaire de l'époque, homme de droite, avait appelé Guy Mollet. Alors évidemment, il avait appelé quelqu'un de la nouvelle majorité de gauche, Guy Mollet, mais ça a été la catastrophe parce que Guy Mollet, effectivement, a fait le contraire de la politique pour laquelle les gens avaient voté, c'est-à-dire entamer, poursuivre le processus de décolonisation comme avait su le faire Mendès dans un premier temps avec l'Indochine. Et notamment avec le Vietnam.
Voilà pour ce sujet. On voulait dire oui, les grèves. Ben Amazon était en grève aujourd'hui pour une journée, mais ça fout une belle pagaille parce que, comme c'est le jour où on envoie tous les cadeaux pour qu'ils arrivent avant Noël, en Allemagne aussi, ils étaient en grève depuis une semaine. Les gens en ont marre des cadences infernales et autres conditions de travail qui leur sont imposées. Plus marrant, si on peut dire. La Tour Eiffel est en grève aussi, les boutiques. Ce qui est moins marrant, c'est les conditions de travail des salariés. ils réclament 300 euros en plus. Hein. Ils sont smicards, ils ont des horaires entre 6h et 23h. Ils ont le dimanche travaillé sans supplément à ce titre. Ils ont le froid, le vent et donc une grève qui se justifie bien par des conditions de travail tout à fait déplorables. Un jeu de chaises musicales dont il faut dire un mot, vous avez dû pleurer au mois de novembre quand vous avez appris que Proglio était viré d'EDF. Reprenez vos larmes puisqu'il est aussitôt nommé à Thalès, dont le PDG vient justement de prendre sa place à EDF. Les chaises musicales, c'est beau, on n'a pas choisi un RMiste pour le remplacer, hein, même pas un agent EDF. Qu'est-ce qu'on voulait vous dire d'autre? Que les Verts sont un petit peu dans l'incertitude par rapport aux élections régionales qui pourraient avoir lieu dans le meilleur des cas en décembre 2015, les 6 et 13, vous pouvez noter sur vos agendas, mais enfin, ce sera peut-être reporté en mars 2016. Les instances des Verts ne savent pas trop sur quel pied danser et finalement laissent au niveau des régions le choix entre y aller seul, y aller en liste commune avec le PS ou y aller en liste commune avec le Front de Gauche. Bref, il y a pas mal de possibilités qui restent ouvertes. Qu'est-ce qu'on n'avait pas dit en social? C'est à peu près tout ce qu'on avait. Tu avais d'autres infos, Robert?
Sur les grands projets inutiles, voire nuisibles, on parlait des nuisibles actuellement, deux qui sont trois même, on peut en citer trois. C'est à Sivens, Tarn-et-Garonne, c'est le blocage total parce que les tenants du projet, qui sont à la fois des politiques du Conseil général, mais aussi des entreprises, veulent la totalité du maintien du projet. Et Ségolène Royal a tenté de trouver un compromis et de dire, au lieu de faire un grand lac, on va faire une petite piscine, mais visiblement, ça ne marche pas et le dossier est actuellement toujours bloqué, donc à Sivens. On parle aussi d'un dossier qui lui est monté en flèche rapidement parce que quand on s'en est emparé il était déjà à moitié réalisé. C'est c'est la centrale biomasse de Gardanne à côté de Marseille qui va pour produire de l'électricité va dévaster les forêts. Alors les forêts françaises du sud-est ne suffiront pas, il faudra aller chercher dans les forêts du côté du Canada, tout ça pour une production qui ne va pas, qui va être dans le rapport de 1 à 2, c'est-à-dire que la productivité de cette centrale biomasse est faible. Par contre, la destruction de l'environnement, plus les pollutions qui seraient dues à ce transport massif de bois, elles seraient en forte hausse. Malheureusement, c'est que le projet est déjà bien avancé et pour le bloquer, il y a la protestation, par exemple, dans le sud-est, notamment dans cette région et du sud-est Provence, plusieurs centaines de maires, un peu de la même manière que ceux qui disaient on veut se situer hors taffeta, ils disent on ne veut pas qu'on touche à nos forêts. C'est pas du tout une position conservatrice, c'est vraiment parce que le projet qui est gigantesque avec l'allemand E.ON, qui est, on sait que c'est le numéro 2 mondial dans ce secteur de l'électricité biomasse, fait ce qu'il veut. Alors, les discussions continuent, on veut modifier le projet, mais en fait, de toute façon, l'installation est pratiquement finie. Maintenant, il faut donner à manger à cette nouvelle centrale. Alors, on va mégoter sur les bois, mais hélas, il est à craindre que que le processus biomasse Gardanne peu rentable au niveau de production d'électricité va quand même bien exister.
C'est une bonne...
Il y avait aussi tout près de Lyon, là, à Chambaran, c'est ça, le projet de Central Park.
Oui. J'ai une bonne nouvelle pour les auditeurs de Radio Candu qui gagnent plus d'un million d'euros par an, à savoir que la taxe à 75% que Pépère avait mis en place pour 2 ans, ben, elle arrive à terme. Donc en 31 décembre, c'est fini. Elle n'a rien rapporté du tout, ou presque 200 millions, parce qu'on en a exempté tous ceux qui auraient payé lourd, qui n'étaient pas des salariés. Donc ça n'a concerné que quelques grosses entreprises. LPSG, qui a payé sans rechigner, puisque paraît-il, il contribue à la moitié des 200 millions que la taxe a rapporté. La deuxième bonne nouvelle pour ces auditeurs qui gagnent plus d'un million d'euros par an, c'est qu'ils vont sûrement nous permettre de faire l'opération, la petite opération immobilière qui va nous permettre de survivre dans les 20 ans à venir, à savoir acheter les locaux de Radio Canu avec l'argent qu'ils vont épargner sur les impôts cette année. Voilà, qu'est-ce qu'on pouvait dire d'autre encore? Oui, il y a cet accord, cette pénalisation de 13 sociétés, je ne vous cite pas les noms, vous les connaissez, de tous ceux qui vendent des produits ménagers divers et variés. Entre 2003 et 2006, pour une entente sur les prix, ils ont une amende de 950 millions d'euros pour s'être entendus entre eux afin de pratiquer des prix relativement élevés dans les supermarchés. Hein, Unilever et L'Oréal, pas du tout contents, font appel. Sans doute que Mamie Zinzin a encore un chèque à faire à quelqu'un pour vouloir épargner là-dessus aussi. Et puis on a Pépère qui se frotte le ventre en prévoyant 0,3% de croissance dans les 6 premiers mois qui le conduiront tout droit, dit-il, à 1% de croissance à la fin de l'année 2015. Alors ses promesses, lui, on en a soupé. Mais bon, vous voyez qu'il ne se lasse pas d'en faire de nouvelles. Et... Nous arrivons ainsi au terme de ce Canu Info du lundi 22 décembre. Il nous reste à souhaiter de bonnes fêtes à nos auditeurs. Ne vous rendez pas malade quand vous...
À propos des fêtes, on peut dire un mot encore?
Oui, vas-y.
Simplement, ben c'est à propos des jouets, et c'est de circonstances. Eh bien, on observe hélas que malgré les débats, malgré par exemple la lutte sur la philosophie réactionnaire du genre, eh bien, on observe encore du sexisme dans la fabrication, la consommation, la distribution et la publicité autour des jouets.
Et du militarisme aussi. Allez, ce Canu Info sera rediffusé demain matin à 8h. Vous devriez pouvoir le retrouver sur Internet dès ce soir. Bonne soirée, à bientôt.